Bon, il est au bout du fil. On va le rejoindre. Est-ce qu'on met un petit indicatif? On va le rejoindre direct. Raphaël Jacob, expert en politique américaine, membre de la chaire Raoul Dandurand et auteur du livre très lu par les temps qui courent, Révolution Trump. Comment ça va, Raphaël?
Ça va super. Bien toi, Mathieu.
Ça va bien. Écoute, permets-moi une petite parenthèse sur ton livre. Mm-hmm. On a eu une discussion à bâton rompu avec Pierre-Yves McSween hier sur Facebook. Sincèrement, premier sur les ventes de livres francophones chez Amazon, c'est merveilleux.
Ça va bien, écoute, ça va très très bien. Là, c'est updaté en temps réel, c'est à l'heure que c'est updaté. Là, on s'est rendu dans le top 10, donc ça a baissé un petit peu depuis hier, où il y en a d'autres qui nous ont dépassés.
Ouais.
Dans le livre de non-fiction en français, c'est encore numéro 1. Donc, les quelques ouvrages qui l'ont dépassé depuis hier, puis tu sais, il y a du va-et-vient là-dedans,
ouais.
sont des ouvrages de fiction, des romans policiers, etc. Mais dans sa catégorie, il est numéro 1 sur Amazon, et ça fait maintenant 4 jours qu'il est en librairie. Donc, écoute, c'est sûr que c'est extrêmement positif.
Bon, ben très heureux d'entendre ça. Félicitations à toi. Je suis content que ça t'arrive. Bon, maintenant, si cet après-midi au Sénat, aux États-Unis, les procédures qui s'amorcent, le sujet, ben, c'est la destitution de Trump. Il n'y en a pas d'autre. Pour expliquer à monsieur, madame, tout le monde, là, qu'est-ce qui se passe là, si on prend la description du match de l'après-midi et des prochains jours?
Ben écoute, on va avoir un procès qui va commencer dans les prochaines minutes en fait, mais c'est pas un procès comme les autres, c'est un procès qui est politique. Donc, on a un jury, mais c'est qui le jury? Ben, ce sont les membres du Sénat, ce sont des sénateurs, ce sont des politiciens, et qui, de façon très remarquable, surtout pour des politiciens, vont devoir garder la bouche fermée. Ils vont pas avoir le droit de dire un mot, ils vont même pas avoir le droit de poser des questions.
Pour vrai, même pas des questions?
Les seules questions qu'ils vont pouvoir être posées, ils vont devoir les soumettre par écrit. Et ces questions-là, après ça, seraient lues par la personne qui préside le procès, c'est-à-dire le juge en chef de la Cour suprême des États-Unis, John Roberts. Mais il n'y a pas de sénateur qui peut se lever, commencer à débattre ou même commencer à poser des questions. Donc, ils sont là, ils vont être là, ils sont forcés, les 100 membres du Sénat, à être tous présents, tous assis et tous silencieux. Et leur seul réel pouvoir, si on veut, c'est à la fin du procès, lorsqu'ils décident ensemble, est-ce qu'on destitue ou non le président des États-Unis. Et on le rappelle, Mathieu, c'est important de le dire, ça ne prend pas une majorité, ça prend ce qu'on appelle une super majorité. Les deux tiers de tous les sénateurs, on sait qu'il y en a 100, donc faites le petit calcul,
67.
Ça en prend 67. Ben, ouais. C'est ça. Fait que c'est drôlement difficile à atteindre.
Et dans le cas de Donald Trump, est-ce que c'est un procès traditionnel, il est dans le box des accusés ou il n'est même pas à Washington, lui?
Présentement, en fait, il n'est même pas aux États-Unis.
Ah, okay.
Il est à Davos.
C'est vrai, il s'en va en Suisse.
Tu crois ça, il est plus que s'en aller. Il est déjà rendu. Et donc, écoute, imagine comment c'est surréel comme scène. On a le président des États-Unis qui est accusé et dont le procès en destitution, on le rappelle, c'est le troisième de toute l'histoire des États-Unis qui passe par là. Et où est-ce que le type, où est-ce que le principal intéressé se trouve au moment du début de son procès en destitution? À des milliers de kilomètres de l'autre bord de l'océan Atlantique, à un sommet économique. Donc, Donald Trump n'est pas là et vraisemblablement ne sera pas des témoins, si témoins il y a. Ça, je le mentionne aussi parce que c'est toujours pas fixé. Même si le procès, écoute, va commencer dans les prochaines minutes, on ne sait même pas encore s'il va y avoir des témoins dans ce procès-là. Ce n'est même pas encore fixé, cette règle-là. Et ça fait l'objet de beaucoup d'acrimonie et de débats à Washington parce que les démocrates, eux, veulent faire comparaître des nouveaux témoins qu'on n'a pas déjà entendus, qui selon eux auraient des choses incriminantes à dire contre le président. Les républicains, eux, s'y opposent. Il faudra voir sur quoi on va statuer au final. Mais dans tous les cas, je te dirais que même s'il y avait des témoins, écoute, ça ne serait pas impossible en principe, là, mais ça serait excessivement surprenant de voir Donald Trump figurer à la liste des témoins. Une fois que ça s'est dit, on s'entend,
ouais. Je
pense qu'on est d'accord comme moi, là, que si ça devait se produire, ça nous ferait un sacré show de télévision.
Sincèrement, là, écoute, ça serait du folklore en bouteille. Parce que dans le cas des deux autres présidents, là, c'était pas diffusé à la télé, ça, là.
Non, mais c'est-à-dire que, évidemment, dans le cas du premier président, pour rappeler la petite histoire, là, c'est Andrew Johnson dans les années 1860.
Il n'y a pas de télé.
Il n'y a pas de radio.
Ouais.
On était très, très, très loin des médias traditionnels. Dans le cas du deuxième, c'était Bill Clinton.
Ouais.
Évidemment, c'est beaucoup plus contemporain.
Il y avait mais le web n'était pas aussi développé. On parle de 93-14 dans ces eaux-là.
Ben, en fait, il est entré au pouvoir en 93, mais son procès en destitution était vers la fin de sa présidence en 99. Donc,
okay. On
était quand même à l'ère du web, mais certainement pas l'ère des médias sociaux qu'on a aujourd'hui. Il y avait la télévision câblée, même si ce n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Mais donc, dans tous les cas, oui, c'était télédiffusé jusqu'à un certain point. Une fois que ça s'est dit, c'est important de mentionner que même dans ce cas-ci, même en 2020, avec toutes les avancées technologiques et médiatiques qu'on a vues, ça va quand même être beaucoup plus restreint ce que les journalistes, que les médias vont pouvoir couvrir que ce qu'ils peuvent couvrir d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, des restrictions très sévères qui sont mises sur les sénateurs, donc les membres du jury, si on veut. Autrement dit, ils ne peuvent même pas aller au Sénat lorsque le procès a lieu avec leur téléphone intelligent. Et il y a le même genre de restriction qui est imposée sur les membres des médias, aux membres des médias. Donc, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que ça soit une couverture mur à mur aussi exhaustive que si c'était simplement une séance régulière du Sénat. On traite ça comme quelque chose de plus, je dirais, de pas nécessairement de plus formel, mais qui doit être encadré de façon plus stricte et par rapport auquel, dans un sens, il y a un petit peu moins de transparence médiatique. Donc, c'est vraiment une atmosphère à la fois historique et très lourde également aussi qu'à Washington, parce que, écoute, c'est quand même grave comme situation, même si au final, on se doute du résultat que le président va être acquitté. Ouais. Même si le président en question n'est même pas aux États-Unis pour le début de son procès, ça reste quand même sérieux. Écoute, on est en train de débattre, on va débattre au Sénat des États-Unis, qui est la chambre législative la plus puissante du pays, et certains diraient du monde, du sort du président de la première puissance du monde, à savoir si on va même lui permettre de finir le mandat auquel il a été élu ou si on va le destituer. C'est très, très sérieux.
Ça dure combien de temps, tout ça?
Honnêtement, on l'ignore.
On sait quand on rentre, on ne sait pas quand on sort, mais as-tu une idée, là, est-ce qu'on est par jour, par semaine?
Je peux dire que l'objectif là, qui semble être visé par la majorité républicaine, on sait que les républicains contrôlent une bonne partie du processus parce qu'ils sont majoritaires au Sénat, c'est de faire en sorte que ça soit le plus expéditif possible, autrement dit, le plus vite possible. Ouais. Maintenant, est-ce que ça veut dire quelques jours ou quelques semaines? Je te dirais que ça risque d'être quelque part entre les deux. Donc, quelque chose autour de 1, 2, 3 semaines normalement. Mais écoute, si on devait, par exemple, du côté démocrate, obtenir gain de cause et là avoir des témoins qui sont ajoutés au programme, écoute, c'est à peu près impossible de prévoir où est-ce que ça va s'en aller, cette patente-là. Donc, normalement, dans un scénario, je dirais, des plus probables, on aurait un procès qui s'étirerait à peu près jusqu'au début février et qui finirait encore une fois par un vote acquittant le président des deux mises en accusation, on le rappelle. Il y en a non seulement une, mais deux, soit obstruction du travail du Congrès et abus de pouvoir. Donc, normalement, ça se conclurait de cette façon-là. Ce qui ne veut pas dire, je me permets d'ajouter très rapidement, oui. Ce qui ne veut pas dire que même si c'est plus bref comme processus, que ça n'aura pas d'impact sur non seulement le président, mais en fait surtout sur certains des sénateurs. Et voici ce que je veux dire par là. Il y a certains de ces sénateurs-là, du côté démocrate, qui sont quoi aussi? Des candidats présidentiels.
Oui.
Et donc, je te disais tantôt qu'ils sont contraints de siéger à Washington en silence. Mais ça inclut, par exemple, un type comme Bernie Sanders qui, on l'a appris ce matin même, a été forcé d'annuler une visite qu'il avait prévue dans les prochaines heures en Iowa. Parce qu'évidemment, l'Iowa, c'est le premier État à voter dans le cadre des primaires démocrates. Ça a lieu maintenant dans moins de 2 semaines. Le type allait faire campagne. Il est très compétitif en Iowa. Espère pouvoir gagner le premier État qui va voter. Mais ne peut pas se rendre, n'a pas le droit de quitter Washington. Donc, ça a déjà des impacts très réels sur des sénateurs qui sont aussi simultanément des candidats présidentiels. On en parle moins que de l'impact sur le président, ce qui est assez drôle parce que l'impact le plus énorme, le plus considérable, en fait, ça pourrait être non seulement sur, non pas en fait sur le président, mais sur certains de ses adversaires démocrates qui ne pourront pas faire campagne pour les prochains jours ou les prochaines semaines, dépendant justement combien de temps ça dure ce procès-là.
Mais en bout de piste, est-ce que ça va aider ou nuire à Trump, cette situation-là?
Ça dépend. Ça aussi, ça dépend. Je te dirais que depuis le début de cette affaire-là, au tout début, ça lui a fait perdre quelques plumes. Et il a très, très mal paru. Là. Je veux dire, quand les premiers détails sont sortis, et j'étais le premier à dire, écoute, on entrait dans un nouveau registre. Là. Et c'est pas pour rien qu'on est allé de l'avant après quoi? Près de 3 ans de pression pour qu'on lance le processus de destitution qu'on a attendu à tout le scandale ukrainien. C'était un scandale qui était différent des autres. Donc, initialement, c'était problématique pour le président. Mais la réalité, c'est que, écoute, au fil du temps, là, ça fait quoi, 3-4 mois que ça dure, cette saga-là, son taux d'approbation est presque exactement où est-ce qu'il était au début. Et il n'y a rien qui indique, surtout justement s'il n'y a pas de témoin au Sénat, lors du procès au Sénat, et que ça se fait de façon expéditive, il n'y a absolument rien qui indique que ça va vraiment lui faire particulièrement mal. Mm-hmm. Au contraire, lui continue de renforcer sa base avec ça. Les gens qui ne l'aimaient pas, évidemment, ne l'aiment pas plus, l'aiment probablement encore moins, mais les gens qui l'aimaient ne sont certainement pas persuadés par ce qu'on entend et ce qu'on voit depuis les derniers mois. Donc, qu'on ajoute 2 semaines, ou à la limite un mois et demi, à toute cette affaire-là. Personnellement, j'ai un petit peu de misère à voir. Encore une fois, à moins qu'on apprenne des choses réellement nouvelles et majeures, j'ai un petit peu de misère à voir comment l'impact va être énorme sur non seulement le standing politique de Donald Trump présentement, mais sur ses chances de réélection dans quoi? Dans 10 mois de ça environ.
Merci pour ces explications, Raphaël, et cette vulgarisation. On a très bien compris. Bonne journée à toi.
Est-ce qu'on peut plugger mon livre encore une petite fois? Révolution Trump, pourquoi pas?
Sûr! Numéro 1, 4e journée.
Oui, Amazon. Exactement.
Et merci. J'ai vu, je pense que c'était chez Renaud Bré ou Archambault à Gatineau. Là. Il est là, mon ami, donc bravo à toi.
Il est dur à manquer avec sa couverture orangée.
Oui, est-ce que tu t'es inspiré de la couleur de la peau ou du toupette de Donald Trump pour le orange?
Je te laisse répondre à ta propre question.
Regarde, quand on regarde la face, là, on a vite la réponse. Merci, Raphaël.
Bye-bye.
Bonne journée, Raphaël Jacob, qui est auteur du livre « Révolution Trump ». On a une copie ici depuis quelque temps. Olivier Charbonneau se l'est claqué hier. LP, je pense, l'a lu aussi au cours des derniers jours. Je vais la lire sous peu. Un livre de vulgarisation. Parce que pour ceux qui aiment la politique canadienne, la politique américaine, c'est pareil, mais c'est différent dans le sens qu'on n'est pas dans un régime totalitaire. On s'entend là-dessus. Là. On n'est pas une oligarchie ou un style de système politique comme ça. Par contre, on se retrouve dans un système complètement différent. Le régime présidentiel est différent. L'arrivée de Trump, c'est différent que de voir arriver un Justin Trudeau ou un Andrew Scheer. Et tout ça, donc, on y va dans le processus de vulgarisation. Donc, si vous êtes intéressé, Révolution Trump. Et dans le cas de Raphaël, il est aussi expert en politique américaine et membre de la chaire Raoul d'Endurant.